Check 1 2 1 2. My check 1 2 1 2. Re-bienvenue à tout le monde sur l'épisode, nouvel épisode du podcast The Surprise Podcast. Je sais que j'ai été absent pendant un moment déjà, mais je reviens avec un épisode très très spécial avec un invité encore plus spécial que je vais introduire maintenant. Déjà, je vais expliquer que c'est normal que j'ai pu être absent. Il y a la vie de tous les jours, hein, les études, l'alternance. C'est pas facile. Mais bon, on est là. Hein, The Surprise Podcast, toujours avec des guests de qualité. Mon guest aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire d'une façon vraiment spéciale parce que, notamment parce qu'il touche un peu à tout. On va en parler aujourd'hui. Je tiens à préciser que je fais ce podcast parce que j'aime avoir des conversations et apprendre des gens qui m'inspirent, des gens qui font de grandes choses. Et j'estime qu'il n'y a rien de plus grand, comme disait Nipsey Hussle, il n'y a rien de plus grand que l'inspiration. Et l'inspiration, c'est le meilleur compliment, en fait, tout simplement, parce qu'on inspire quelqu'un. Et j'estime que le guest d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'inspire, qui fait des choses que j'aime, que je trouve de qualité. Et donc, j'estimais être essentiel aujourd'hui de l'avoir. Styliste, responsable dans l'événementiel, que ce soit dans tout ce qui est tout le côté esthétique des choses, l'habillage des personnes et même des lieux. Chef des thèmes, organisateur de vos meilleures soirées dans lesquelles vous allez ici sur Paname, grosse tête de la Make It Clap Agency. Je dirais même que je suis sûr et certain que j'oublie beaucoup de choses, c'est pour ça qu'il va me corriger après. Mais de tous les vous avez certainement été dans des restaurants qu'il gère, je pense notamment à Mama Kosa. Vous avez certainement été à des soirées qu'il organise, qu'il curate de A à Z. Je pense à Afrobo, je pense à la R&B Cruise ou même encore à Sunday Groove. Et vous avez certainement eu à tricher son style et essayer de vous habiller comme lui, ce qui est très compliqué, très difficile. En tout cas, aujourd'hui, j'ai avec moi le plaisir d'avoir sur The Surprise Podcast Margie Van Doren. Margie, comment tu vas ?
Salut. Alors, merci pour l'introduction. Alors, je vais bien, je suis au calme, c'est l'heure de la sieste, les enfants dorment. Du coup, donc, je suis tranquille.
Très bien. Déjà, est-ce que ma présentation était correcte ? Comment était ma présentation ? Est-ce que j'ai dit des choses qui n'étaient pas forcément vraies ? Est-ce que j'ai oublié des choses ? Comment était la présentation ?
Alors, c'est pas juste, mais... c'est l'image que je peux renvoyer, donc je comprends tout à fait que tu dis ces choses-là, mais c'est pas tout à fait juste.
Alors c'est quoi qui est pas juste exactement dans ce que je dis ?
Alors, Mama Kosa, en fait, c'est pas mon restaurant, c'est le restaurant qui appartient aux responsables de Make It Clap, donc ils sont trois associés.
D'accord.
Didier, Flora et Yannick.
Okay.
C'est eux qui gèrent Mama Kosa. Moi, je fais un événement là-bas uniquement tous les jeudis.
Ok.
Voilà. Donc, j'ai un after work là-bas tous les jeudis. C'est tout. Alors, mais c'est vrai que comme je me suis occupé de restaurant avant, donc c'est sûr que quand je m'installe quelque part, vu que je prends pas mal de place, on peut croire que c'est chez moi, mais ce n'est pas chez moi. Mais c'est la maison, parce que c'est la famille, donc c'est tout comme. Parce qu'avant Mama Kosa, je m'occupais d'Omaki, mais là, j'y étais tous les jours.
D'accord.
Je m'occupais d'Omaki, de tout ce qui est de l'image du lieu, de toute la direction artistique, des events, des grosses résas, des DJ, les noms des cocktails, enfin tout ce qui était visuel, tout ce qui faisait partie de l'ambiance et de la direction du artistique du lieu, hein, la déco, etc. c'était moi. Mamakosa, non. Mamakosa, moi, j'arrive, je m'installe, je fais l'événement et je m'en vais.
D'accord.
Voilà, c'est différent.
Ça, c'est intéressant, d'accord. Bah, autant pour moi. Mais en parlant de ça, donc, prendre Make It Clap. Mm-hmm. J'ai eu Didier sur le podcast, Didier, que je salue d'ailleurs, un grand frère à moi, incroyable comme personne. Il m'a donné beaucoup de conseils, il était très gentil à venir. Il a fait un post même après du podcast sur son LinkedIn, ça m'a vraiment touché. Merci encore à Didier. Et parle de Make It Clap, quel est ton rôle à Make It Clap? Comment est quelle est la naissance de ce projet, ce grand projet Make It Clap, et quel est ton rôle dans tout ça?
Alors, je vais saluer Didier, qui est un grand homme par le talent. Malheureusement, pour lui, pas par la taille. comme je sais qu'il écoutera ce podcast...
C'était trop facile, ça.
C'était
trop
juste facile. Une petite pique à mon ami et un mentor, un très bel exemple à suivre, Didier. Alors moi, je ne fais pas partie de Make It Clap. Je travaille avec Make It Clap depuis maintenant 5 ou 6 ans.
Okay.
Ouais, je travaille avec Make It Clap. En fait, comme je fais de l'événementiel, et Make It Clap, aujourd'hui, c'est mon seul client. C'est le seul avec qui je travaille, parce que moi, je suis en freelance.
D'accord.
Mais je travaille qu'avec eux, parce que je bosse avec eux sur toute l'année. Alors, pourquoi eux? Alors, tout d'abord, parce que les événements qu'ils produisent, en fait, je les adore. J'aime l'énergie qu'il y a dans leurs événements. J'aime l'organisation dans leurs événements. Alors, j'aime la place qu'on me laisse occuper. Parce que on me donne des responsabilités. Les événements sont cool. Il n'y a pas de problème d'argent. Je m'entends très bien avec l'équipe dirigeante. Donc, et j'aime la façon dont ils abordent les événements, parce que tout est préparé. Parce que j'ai travaillé avec plusieurs organisateurs et tout le monde ne travaille pas comme eux travaillent, tu vois.
D'accord.
Et j'aime parce que chacun a son poste, chacun joue son rôle. Et comme aujourd'hui, je ne veux plus forcément, parce que j'ai organisé des événements tout seul, alors j'ai plus forcément envie d'être au four et au moulin. Moi, je m'occupe de mon pôle et c'est très bien comme ça. Et voilà. Je disais, j'aime l'énergie qu'il y a dans les événements, j'aime le public, parce que faut savoir que dans la scène parisienne, c'est pas forcément partout où on s'amuse, tu vois, où on ressent l'énergie qu'on peut ressentir dans leurs événements.
Totalement. Et justement, c'est intéressant que tu aies parlé de ça, t'aimes l'équipe. J'avais une question concernant ça, c'était... Mais avant d'en arriver là, mais aujourd'hui déjà, Margie, pourquoi... Déjà, pourquoi Margie Van Doren? Pourquoi Van Doren? Parce que ça sonne très néerlandais, mais je pensais que tu serais néerlandais, Margie. Du coup, c'est...
Alors, Margie Van Doren, c'est suédois.
Suédois, ok.
Ouais, c'est suédois, mais moi, je suis congolais.
Ok.
Alors, il faut savoir que c'est le nom du fondateur, du créateur de la marque Vans. Et j'étais un très grand fan de Vans. Et du coup, sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai adopté ce nom. Ça a commencé sur Facebook. Tu vois, comme il fallait sur Facebook, tu pouvais pas mettre à l'époque... juste un nom, il fallait mettre un nom et un nom de famille. Mmh. Et moi, j'avais choisi celui-là et c'est resté.
C'est resté, d'accord.
Et du coup, la plupart des gens qui me connaissent aujourd'hui, la génération la plus jeune, ils me connaissent en tant que Margie Van Doren. Et en fait, ce nom est resté. Je reçois du courrier à ce nom-là parce que je suis inscrit dans pas mal de choses à ce nom-là. C'est un peu comme... Johnny Hallyday qui utilise le nom Hallyday alors que c'est pas son nom de famille, c'est un pseudonyme. Ben, moi c'est pareil aujourd'hui, c'est resté.
Totalement. Ok. Mon nom de famille. Je comprends bien. Comment t'es venu cet amour-là, ce goût-là de l'esthétique, du visuel, de la mode, en fait tout ce que tu touches aujourd'hui tout simplement.
Alors, Étant congolais, je pense que
ouais, bon,
je pense
ouais.
que c'est
Ouais, dit comme ça, effectivement, je réponds à la question, moi, ouais, directement.
étant congolais, je pense que voilà, c'est venu naturellement, c'est dans les gènes. Et ma mère est couturière. Et ma mère est une personnalité très connue dans le milieu congolais. Et je pense que j'ai hérité de son goût pour les vêtements, pour l'esthétique, pour la mode, pour l'image.
D'accord.
Je pense que tout ça vient d'elle. Et voilà, c'est comme ça depuis petit. Maintenant, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout prend d'ampleur. Parce que moi, je viens d'une génération qui n'est pas née avec les réseaux sociaux. Donc on voit la différence de avant et après. J'ai toujours eu une petite notoriété dans mon domaine, dans mon secteur géographique, je dirais. Mais là, aujourd'hui, avec les réseaux, tout prend une portée beaucoup plus grande. Aujourd'hui, c'est à l'échelle mondiale. On peut vivre dans le plus petit village et être connu partout dans le monde.
Totalement, ça c'est totalement vrai. Et tout à l'heure on a parlé du fait que tu aimais beaucoup travailler à Mickey Club parce que tu appréciais l'univers Mickey Club, mais surtout l'équipe. Et j'avais cette question là concernant l'équipe. Comment s'entourer? Comment travailler avec des bonnes personnes? Comment savoir qu'on travaille avec les bonnes personnes? Et quelle est l'importance d'une bonne équipe, selon toi?
Alors aujourd'hui, avoir une équipe, je trouve que c'est très, 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 très difficile. Je trouve que c'est très difficile. Moi, j'essaye d'avoir une équipe moi-même pour mes activités, tu vois. Mickey Clap, eux, bah, ils bossent ensemble depuis, je crois, plus de 10 ans, les dirigeants, c'est-à-dire Didier, Flora et Yannick. Moi, je les ai connus ensemble. Enfin, j'ai connu Didier avec Omax à l'époque, je pense que ça fait déjà une quinzaine d'années. Parce que Mickey Clap existe depuis 20 ans. Je les avais connus ensemble. Puis ensuite, j'ai découvert Flora et Yannick. Parce que j'étais client de leur événement avant de travailler avec eux.
D'accord.
Donc eux, ils sont, bah, je pense qu'ils ont dû travailler, construire, nourrir leur relation. Maintenant, pour avoir une équipe, pour répondre à ta question, bah, moi, je cherche à créer, développer une équipe. J'ai essayé avec plusieurs personnes et ça n'a pas fonctionné pour X ou Y raison, parce que il faut pouvoir réussir à proposer quelque chose de concret dans la durée. Il faut que les gens soient motivés et aient envie de travailler. Et moi, de mon point de vue à moi, alors, les gens ne sont pas forcément motivés ou alors ils sont trop impatients. C'est la génération d'aujourd'hui, je trouve qu'ils sont trop impatients, ils veulent tout, tout de suite. Ils n'ont pas conscience que Rome se fait pas ne sait pas faire en un jour et qu'il y a des choses qui mettent du temps et il faut du mérite. Tu peux pas tout avoir en un claquement de doigts tout de suite, tu vois.
Totalement.
Mais bon, comme aujourd'hui, on vit dans une société où tu peux commander quelque chose en ligne qui se trouve à l'autre bout du monde et ça arrive le lendemain. Donc tout est dans l'instantané, tout est rapide, donc les gens n'ont pas cette patience, je trouve,
Ouais,
par rapport
c'est l'ubérisation du monde, comme disait la
moi,
télé.
par rapport aux personnes de ma génération, tu vois, on sait que pour avoir certaines choses, ça met du temps, on doit bosser, on doit attendre, on doit faire nos preuves. Aujourd'hui, les gens vont faire un essai et directement, ils veulent ça, ça, ça. Et si ça n'arrive pas, et ben ils préfèrent aller voir ailleurs ou essayer autre chose, alors que ailleurs ce sera pareil.
Ouais. Ok. Bah, en fait,
Donc,
ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce souci-là aujourd'hui. Ce problème-là de rapidité, voilà. On veut tout avoir très vite, très rapidement. Mais lorsqu'on parlait de visuel et d'esthétique, moi je me projette immédiatement et je pense à bah, je pense en fait au concept, je pense à la scène des groupes par exemple, ou quand on va au Wanderlust le dimanche, bah, ça n'a aucun rapport avec le Wanderlust de la semaine. Je pense à l'Afrobot, où enfin, tout simplement on a l'impression d'être vraiment à une soirée guinfrie, africaine, vraiment pure. Mais lorsqu'on est là le mercredi à R&B Cruise, l'esthétique est encore totalement différente. Mais alors qu'on est au même lieu, mais en fait, il y a un visuel en fait qui change, un univers qui change, alors que des fois le lieu est pareil. Et j'aimerais savoir en fait quel est ton processus au niveau de l'esthétique et de tout ce qui est visuel et l'habillage. C'est quoi son importance dans ton travail en fait par rapport à ça? Comment est-ce que tu réfléchis à ça? Comment tu mets ça en place? Tous ces thèmes-là, le rose, le blanc.
Alors ça c'est pas alors ça c'est un travail qui est réalisé par Makitlap dans la globalité. C'est toute une direction, c'est toute une équipe qui travaille dessus. Maintenant tu peux avoir un lieu un lieu qui a une identité, mais tu peux lui donner une direction différente chaque jour. Et ça passe par un travail visuel, par un travail audio. Tu vois, si tu changes les DJ, tu vas changer la déco, tu vas changer les personnes, tu vas changer les personnes qui vont influencer sur ce projet-là. Et ça va donner une différence. Tu vois, quand tu l'as dit, quand tu vas au Wanderlust toute la semaine et que tu vas le dimanche, bah, tu te rends compte que c'est pas le même Wanderlust du jeudi ou du vendredi, parce que le dimanche c'est Sunday Groove, et sur Sunday Groove on fait en sorte d'avoir une forte identité. C'est-à-dire que dès que tu rentres dans le Wanderlust, donc tu vas voir déjà au niveau scénographique, tu verras tu vas voir écrit Sunday Groove un peu partout. Tu vois, t'es pas juste au Wanderlust, t'es à la Sunday Groove. Tu vas voir qu'il va y avoir des animations proposées qui ne sont pas proposées les autres jours de la semaine. La clientèle, pareil, pour Sunday Groove, on a un public qui a beaucoup de style, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de. Il y a les gens y vont et expriment leur identité à Sunday Groove. En termes de vêtements, et c'est ce qui est génial. C'est un truc qu'on encourage, c'est un travail qu'on va faire sur toute la semaine avec l'équipe de com qui va diffuser certains visuels, qui aura certains discours, les vidéos, enfin tout ce qui va être partagé tend à insuffler ça, tu vois. Donc c'est un travail. Après Sunday Groove, ça fait 8 saisons maintenant, il me semble. Ouais, je crois que c'est la 8e saison. Ça s'est pas fait en un jour. Tu vois, ça a commencé, Sunday Groove, ça a commencé d'abord comme une simple départie. Et au fur et à mesure, on l'a façonné pour que ce soit ce que c'est aujourd'hui.
D'accord. En gros, une fois de plus, c'est un travail d'équipe.
Ouais, c'est un travail d'équipe. C'est le projet de Make It Clap. Maintenant, moi, j'ajoute ma pierre à l'édifice. En attirant un certain public, en donnant une certaine énergie, mais c'est un travail d'équipe. Sunday Groove, ça a existé avant moi et ça existera après moi, tu vois.
Total. Ok. D'accord, je vois. Et c'est quoi l'importance du réseau dans tout ça? Parce que vu que tu es en freelance, toi, j'imagine que tu as beaucoup de réseaux, tu connais beaucoup de personnes. Comment tu fais pour t'introduire aux gens? Comment tu fais pour te présenter? Comment tu crées ton réseau finalement?
Alors, comment on crée son réseau? Genre, moi, j'ai pas fait d'école de com, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait tout ça. Il y a des gens qui vont à l'école pour apprendre certaines choses, et il y a des gens pour qui c'est inné, tu vois. Maintenant, comment l'expliquer? Moi, ça fait partie de ma personnalité. J'ai toujours été à l'aise socialement, j'ai toujours été à l'aise pour parler avec les gens. Enfin, quand je dis toujours. Non, au collège, avant la sixième, je l'étais pas. Après la sixième, c'est là où c'est arrivé parce que j'ai fait un petit stage chez mes cousines. Et du coup, c'est là où j'ai commencé. C'est en cinquième que j'ai commencé à traîner beaucoup avec mes cousines et donc leurs copines et à découvrir les femmes et leur façon de penser, parce que les femmes sont totalement différentes de nous, les hommes. Et à force de les fréquenter et d'être entouré de femmes, j'ai développé, enfin, j'ai été très à l'aise pour leur parler. Et comme j'ai toujours été à l'écoute, donc ça permet de comprendre plus facilement. Et du coup, je n'ai pas peur de parler aux personnes et surtout aux femmes. Donc je pense que c'est parti de là. Et c'est simple, moi quand je vois quelqu'un, si j'ai envie d'interagir avec cette personne, je vais lui parler, je vais me présenter, je vais lui demander d'où elle vient, et voilà, je vais entamer la discussion toujours par rapport à un truc que j'ai vu ou qui m'a interpellé, ou voilà. C'est-à-dire que si je vois une personne et il y a un truc qui m'interpelle, je vais la voir, je vais lui demander, je vais pas la laisser passer. Et
Ouais.
si je veux savoir où est-ce qu'elle a acheté telle chose, ou si j'aime son style, je vais lui dire. Si je vois que la personne, elle a l'air un peu perdue, parce que souvent, j'ai beaucoup de... Parce que moi, mon réseau, aujourd'hui, il est international. Alors, moi, ce que j'apporte aujourd'hui, c'est beaucoup les étrangers qui veulent découvrir le Paris noir, tu vois. C'est beaucoup... Ouais, c'est
Moi j'ai
beaucoup...
remarqué ça, surtout à R&B Cruz. Il y a vraiment
Ouais,
un public noir américain, noir.
c'est beaucoup les Américains, les Hollandais, les Anglais, les Scandinaves... C'est tous ceux qui sont amoureux de la culture noire et qui viennent à Paris et qui veulent la découvrir. Qui veulent sortir des sentiers battus, des trucs touristiques, Champs-Élysées, etc. Donc si t'es quelqu'un qui est à la recherche de la culture noire à Paris, tu peux pas faire une semaine dans cette ville sans avoir entendu parler de moi à un moment. Donc et suite à ça, et comme en fait c'est arrivé parce que avant, je travaillais au comptoir général. Et
Ah bon,
voilà,
waouh.
le comptoir général, j'ai fait 6 ans là-bas. Et c'est un lieu qui était connu à 75% que par des étrangers. Parce qu'ils étaient présents sur tous les sites touristiques, les guides, les magazines, les offices du tourisme. Donc c'était un lieu qui était à Paris, mais que les Parisiens à la base ne connaissaient pas du tout.
En tout cas, c'est un lieu qui m'a réussi parce que j'ai eu beaucoup de dates là-bas qui sont très bien passées. Non, merci à
Ah,
toi.
écoute, c'est un lieu qui m'a réussi aussi, parce que c'est comme ça que je l'ai connu, tu vois. C'est comme ça que j'ai connu le lieu. C'est un jour, une fille avec qui je sortais, qui m'a emmené là-bas. Et après, je suis retourné plusieurs fois sans elle et j'ai emmené d'autres filles là-bas parce que... Le rapport qualité-prix était génial parce qu'à l'époque, les tiponches, c'était 5 euros. Le lieu était magnifique. Donc,
C'était super.
quand tu avais un date avec 30 euros, elle avait 3 consos, j'avais 3 consos,
Oh,
c'était
magnifique.
facile. Tu vois, quand tu
Oh,
enchaînes les dates, quand tu as des dates tous les jours, à un moment donné, il faut être rationnel et il faut
oh,
penser
c'était incroyable. En fait,
à ton
on vivait
futur.
tous la même vie, c'est incroyable.
Bah oui, et tu sais très bien comment c'était là-bas. Quand tu ramenais une fille là-bas, elle prenait une claque. Parce que
Incroyable, avec les tableaux dans le couloir, tout
non,
ça. Oh là là. Oh.
c'est un des plus beaux lieux de Paris pour moi.
C'est
C'est vraiment,
incroyable, franchement.
c'est incroyable. Et moi, quand j'ai découvert ce lieu, j'ai tout de suite vu que dans ma communauté, dans mon cercle, dans mon réseau, alors, ils ne connaissaient pas ce lieu du tout. Donc j'ai découvert ce lieu, je me suis tout de suite lié d'amitié avec les personnes qui bossaient là-bas. Et j'ai commencé à jouer au foot avec eux. Et comme je suis un bon joueur, ça a encore facilité le contact et les relations. Et moi, j'ai bossé à l'époque, j'étais responsable des services consommateurs chez Carglass. Donc j'étais un spécialiste de la relation client. Et je bossais dans des bureaux, tu vois, c'était chemise, cravate, veste à la Défense. Et quand j'ai connu ce lieu, j'ai demandé un mercredi s'ils ne recherchaient pas des gens en extra. J'ai demandé le mercredi, j'ai commencé le vendredi même et c'était juste génial. Je me sentais tellement bien dans le lieu que après 6 mois où j'ai enchaîné les deux, bah, j'ai quitté mon travail.
Waouh.
Ouais, j'ai quitté mon travail pour être là-bas au quotidien parce que je sentais qu'il y avait des choses à faire, qu'il y avait une opportunité pour moi là-bas. Mais pour pouvoir développer quelque chose, il fallait que je sois présent tous les jours. Donc quand j'ai laissé mon travail avec mon statut, cadre et tout ça, je peux te dire que ma mère a pété les plombs. Elle m'a dit,
Oh,
mais
j'imagine,
elle
j'imagine.
m'a dit, t'es fou parce que tu sais comment c'est chez les Africains
Bien sûr.
quand t'as un poste à responsabilité avec un
Exactement.
statut, pour eux, ta vie, elle est réussie.
Ah, c'est terminé.
Alors que moi, je lui ai dit non, ce que j'ai réussi à faire là-bas, c'est acquis. Je peux aller essayer quelque chose si jamais ça ne marche pas. Moi, j'ai jamais galéré pour trouver du boulot dans ma vie. Tu vois, dès le moment où j'ai un entretien, j'ai le poste. Je peux avoir du mal à avoir l'entretien, mais si j'ai l'entretien, j'ai le poste. J'ai jamais raté un entretien, et même si j'ai pas à les préparer, je sais me vendre, tu vois. Donc, j'ai jamais eu de mal pour ça. Et donc j'ai commencé au comptoir général et là-bas j'ai occupé plusieurs postes. J'ai été physio, j'ai organisé mes premières soirées là-bas. Je m'occupais du brunch, je m'occupais d'une des boîtes de nuit parce que le comptoir général était géré par un groupe. Donc il y avait plusieurs sociétés différentes. Et
D'accord.
c'est là-bas à l'époque de Afropunk, parce que quand Afropunk est arrivé à Paris il y a 10 ans, je crois. Ouais, quand Afropunk est arrivé à Paris il y a 10 ans, c'était la première édition qui était organisée en dehors des États-Unis. Et du coup, Ama, qui est un de mes modèles, un de mes mentors, c'est lui qui m'a initié dans pas mal de choses. Donc Ama m'a dit, ah, il y a Afropunk. Non, c'est moi qui suis le voir. Je lui ai dit, écoute, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle Afropunk. Est-ce que tu peux nous avoir des places là-bas? Il m'a dit ouais, carrément. Il connaissait des gens qui organisaient. Donc je lui ai dit, écoute, si tu nous fais rentrer, moi je m'occupe du monde et je ramène tout le monde au comptoir pour l'after show. Toi tu t'occupes des artistes, etc. Donc on a scindé le travail en deux. Donc moi j'étais dans la fosse avec le peuple et je parlais à tout le monde. Tu vois, je parlais à tout le monde. C'était hey, where you from? Oh, je viens des États-Unis, c'est ma première fois à Paris, je viens d'Afrique du Sud, je viens d'Amsterdam, je viens de Londres, etc. Et qu'est-ce que tu fais après? Oh, bah, j'ai pas de plan. Bah, écoute, si tu fais rien après, passe au comptoir général, on organise l'after show. Ce qui était totalement faux. On avait une soirée ce soir-là, mais c'était pas du tout l'after show officiel d'Afropunk.
D'accord.
Et au bout d'une heure, je parle à quelqu'un, hey, where you from? La personne me dit, oh, je viens d'Italie, what you doing after this? Oh, bah, j'ai entendu parler de l'after show au comptoir général. Donc, cool, le bruit s'était propagé, et du coup, c'était un dimanche. On a eu 1000 personnes qui sont arrivées d'Afropunk. Donc, 1000 personnes d'Afropunk. C'est 1000 personnes super lookées, c'est des grosses personnalités, il y avait vraiment de tout. Et c'était, il y avait beaucoup de gens à l'époque qui, soit ils étaient déjà gros, c'est-à-dire très connus, ou c'est des gens qui sont devenus connus au fur et à mesure du temps. Et
Non, en quelle année
moi,
là?
là, on est en 2023. Ça devait être en 2014, 2013, 2014, par là. Tu vois, c'est des gens avec qui j'ai noué des relations directement et je suis devenu leur référence à Paris. Donc pour toutes les personnes que j'ai connues à ce moment-là, quand ils sont retournés dans leur pays, dès qu'ils parlaient de moi sur leur blog, sur le lieu, si tu... If you're going to Paris, check my boy Margie. Donc, c'était chaque personne que j'ai rencontrée m'a envoyé une quinzaine, une vingtaine de personnes. Et toutes les personnes qu'eux m'ont envoyé d'autres personnes. Tu vois, c'est un effet boule de neige. Et c'est comme ça que j'ai commencé à. C'est comme ça que mon réseau à l'international s'est développé. Donc, toutes les. Tu vois, c'est comme si toi, demain, tu as quelqu'un, je sais pas, tu as quelqu'un à Pékin, tous les gens que tu connais, si quelqu'un te dit, ah, ben, je vais à Pékin, tu dis, écoute, moi, à Pékin, j'ai mon gars là-bas, il s'appelle un tel, si tu vas là-bas, contacte-le, si tu veux sortir, si tu veux faire ci, faire ça, si tu as un problème, si tu veux voir ça, va avec lui. Et ben, c'est comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mon réseau international. C'est comme ça que j'ai commencé à parler anglais parce que je suis sorti avec une américaine parce que je parlais pas du tout anglais avant. Tu vois, je parlais pas du tout anglais. Je suis sorti avec une américaine pendant un an et quelques. Et mon anglais, c'est un peu son héritage. Et aujourd'hui, comme j'ai des amis qui viennent de partout, parce que tu as beaucoup d'étrangers qui vivent à Paris et tu as tous ceux qui viennent à Paris régulièrement pour le travail. Et comme moi, ma clientèle, que ce soit pour les événements ou pour le stylisme, pour les vêtements, parce que comme je m'occupe de trois boutiques vintage, enfin deux vintage et une marque qui est basée à la base, qui est basée en Norvège, mais qui a une boutique à Tokyo. Je suis beaucoup confronté aux étrangers, donc je parle anglais quasiment tous les jours et tout le temps, quoi.
D'accord. C'est super intéressant en fait de t'entendre parler de en fait ce en fait c'est vraiment ça en fait la création de réseau finalement. En fait c'est comment ça a commencé quand tu parles d'Afropunk du comptoir général d'où t'es passé avant et où t'es aujourd'hui ça se déjà ça se fait pas en un jour ça se comprend ça se voit direct.
Ça se fait, ça se développe au fur et à mesure.
Exactement.
Et ça s'entretient surtout aussi.
Voilà. Oui, ça s'entretient et c'est pour ça qu'on te fait confiance. Et je me rends compte que, parce que moi, je prends vraiment le temps dans ce podcast de poser des questions qui vont m'aider aussi dans mon, en fait, dans mes projets, dans ce que je fais. Et je me dis, c'est justement l'une des problématiques que je rencontre, le réseau. En fait, j'ai créé un label qui s'appelle Sully Sound Records. L'idée, c'est de faire de la musique, produire de la musique. Partager, enfin distribuer sur les plateformes de streaming et derrière, voilà, faire un label de musique et faire connaître des artistes, faire de la musique tout simplement. Sauf que le côté événementiel est venu comme ça. C'était pas forcément quelque chose que je voulais faire au début, mais en fait, on a fait une soirée, c'est bien passé, on a fait une deuxième et depuis ça marche. Donc je mixe et j'ai un collègue, on va dire, qui mixe aussi avec moi. Super chaud, Don Massimo, dédicace à lui d'ailleurs. Et en fait, j'arrive pas à lui trouver des lieux où mixer, où j'arrive, on n'arrive pas comment dire, à trouver des endroits où on pourrait faire des événements. En gros, on n'arrive pas souvent à réunir une communauté. On fait des événements ici et là, des gens qui viennent, mais j'ai souvent un souci de est-ce que comment avoir une vraie communauté fidèle, des gens qui vont venir, ou comment avoir des lieux où mixer? Comment en fait comment le faire comment est-ce que les gens se sont lancés pour le faire qui voir comment se lancer tout simplement
Ah bah tu démarches, hein, c'est du porte à porte. Hein. Tu vas voir un lieu, tu vois un lieu qui tourne ou qui tourne pas, tu demandes à voir le patron, tu lui proposes d'organiser un événement. Souvent, on va te laisser le jour qui marche le moins pour voir ce que pour voir ce que tu arrives à faire. Et voilà, je sais en tant que noir, c'est pas forcément facile. Mais aujourd'hui, on a la chance qu'en termes de musique, alors tout ce qui est musique noire, c'est ce qui domine aujourd'hui, c'est ce qui prend de la place, c'est ce qui est joué partout. Donc c'est plus facile aujourd'hui de pouvoir démarcher des lieux pour les mixer. Donc tu peux commencer à entrer là-bas en tant que DJ. Et ensuite, une fois que tu as gagné leur confiance, tu peux leur proposer de faire des événements. Tu peux faire ça en deux temps, tu vois.
D'accord. Ce serait quoi le conseil que toi tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine de l'événementiel? Conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui veut faire ce que tu fais, mais vraiment sur le côté événementiel aujourd'hui?
Ah, si tu veux faire de l'événementiel, bah, écoute, aujourd'hui, il faut que t'aies pas peur de te retrousser les manches et d'aller vers les gens. Il faut que tu trouves ton spot et ton créneau parce que bon, on est dans Paris. Paris, ça reste une petite ville, mais il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut que tu trouves ton concept qui va faire en sorte que tu te différencies des autres. Ton concept, c'est pas forcément quelque chose de révolutionnaire, hein. Ça peut être, tu sais, tu peux faire par exemple ta soirée, ça peut être une soirée où, je sais pas, on parlait des thèmes de couleurs tout à l'heure, bah, c'est par exemple une soirée rose et les gens doivent toujours être en rose, tu vois. Ça peut être ton concept à toi et après, tu es connu pour le mec qui fait des soirées roses, tu vois.
Totalement.
Ouais, et tu commences comme ça et c'est dur au début, mais quand ça prend et après, voilà. Et après, tu peux aller vendre ton concept un peu partout. Enfin, tu peux essayer de développer dans différents lieux.
Ouais.
Tu dois trouver, en fait, tu dois trouver le concept et après le lieu qui te laisse la chance d'essayer. Et voilà. Hein. Mais il ne faut pas avoir peur de sauter et d'aller enfoncer les portes. Tu vois, tu vas bien sûr, tu vas devoir essuyer plusieurs refus, mais il ne faut pas. Faut pas se décourager. Entreprendre, c'est ça. C'est jamais se décourager. C'est tomber, se relever.
Totalement. Aujourd'hui, c'est plus quoi? C'est quoi la plus grande leçon que tu as apprise jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te demanderai si la plus grande leçon dans le sens où je sais pas, en fait, dans tout ce que tu as pu entreprendre, dans tout ce que tu as pu faire aujourd'hui, ce qui te vient directement, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui t'a forgé? C'est
Alors
quoi
moi, ce qui te forge, c'est les échecs et les expériences. Alors, moi, comme je suis quelqu'un qui observe beaucoup, donc j'ai la chance d'avoir pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui autour de moi, tu vois, qui entreprennent dans différents domaines. Et leurs réussites, ce sont mes réussites, et leurs échecs, ce sont mes échecs. Parce que les erreurs qu'ils font, j'apprends de tout ça, en fait, j'apprends de tout ce qu'ils font. Je les observe, je regarde. Maintenant, je m'inspire d'eux sur tout ce qu'ils font et j'essaie de les refaire à ma sauce. Si ils font telle ou telle chose et que ça n'a pas marché, bah, j'arrive à identifier le pourquoi ça n'a pas marché et j'essaie de reproduire à ma sauce pour que ça marche, tu vois. Donc, je m'inspire de mes pairs beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'a réussi. Maintenant, j'essaie toujours de tout faire à ma façon parce on est différents. Ta façon de faire et ce qui marche pour toi, bah, ne va pas forcément marcher pour moi parce que je suis pas toi, je suis pas comme toi. Donc, ce que
Totalement.
toi tu fais, ce que tu réussis à faire à ta façon, moi, je vais pas pouvoir le faire. Donc, je vais essayer d'adapter ton fonctionnement à ma façon, à ma personnalité. Mais alors, pour répondre à ta question, alors, on vit dans un monde, on vit dans un monde quand même qui est un monde de requins où il y a aussi pas mal d'hypocrisie. Où tu sais aujourd'hui, quelqu'un qui t'aime pas, c'est pas quelqu'un qui ne va pas te parler. Aujourd'hui, les gens qui ne t'aiment pas, c'est très difficile de les identifier parce que
Totalement, je suis totalement d'accord avec toi.
y a de la fourberie, y a vraiment beaucoup de mesquinerie. Moi, quelqu'un, quand je l'aime pas, bah, je ne me rapproche pas de cette personne, je ne m'entoure pas, je ne la calcule pas, je ne vais pas vers elle. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas t'aimer, mais qui vont tout faire pour être proche de toi. Et c'est des gens qui peuvent te nuire. Bon, ça, c'est un fonctionnement que je ne comprends pas. Mais une des leçons que j'ai appris, c'est il faut garder les yeux bien ouverts et faire attention, et faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on dit et comment on est. En fait, pour moi, pour être là où je suis aujourd'hui, j'essaie d'être droit et d'être correct avec tout le monde. Tu vois?
D'accord.
Je suis droit, je suis correct avec tout le monde. C'est pour ça que Je suis bien reçu partout où je vais parce que je suis cool et correct avec tout le monde. Tu vois, et c'est très important d'avoir cette intégrité personnelle et dans le travail. C'est pas le cas de tout le monde et moi ça me facilite. Je suis droit dans mes bottes, je suis droit dans mes baskets c'est, je pense, ce qui me permet de rencontrer des gens. Alors, la majeure partie des gens que je rencontre et avec qui je collabore sont bienveillants, tu vois. Tu peux tomber sur des gens qui vont essayer de t'utiliser, mais ça, c'est le jeu, tu vois.
Totalement.
Les gens t'utilisent. Tant que c'est du donnant-donnant, ça va, tu vois. Tant que c'est du donnant, faut pas que tu te laisses utiliser et que tu n'aies rien en retour. Donc oui, je dirais garder les yeux ouverts et rester intègre.
Rester intègre. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu es heureux et penses-tu avoir aussi, après tout ça, tout ce qu'on se dit, penses-tu avoir finalement réussi ta vie?
Bah, tu vois, je trouve que je suis chanceux.
Ok.
Je suis chanceux parce que j'arrive à vivre de mon lifestyle. Tu vois, parce que aujourd'hui j'arrive à vivre et je gagne mieux ma vie qu'avant, tu vois, et je travaille pas dans la rue, je suis pas là à porter des briques, je fais pas des métiers qui sont épuisants, non, je danse, je bois, je mange, je rencontre des gens formidables, les gens vont me payer pour que je leur fasse vivre des expériences. Donc non, c'est je suis chanceux, je suis vraiment chanceux, je suis content dans ma vie, j'ai une famille, je suis entouré, maintenant j'ai des objectifs, je fais en sorte d'atteindre mes objectifs pour être encore plus heureux et épanoui, et pour rendre heureux ma famille, pour subvenir aux besoins de ma famille, parce que j'ai quand même une femme, 4 enfants. Donc c'est déjà une grande famille. Mais non, je suis heureux dans ma vie et je sais que je le serai encore et je le serai toujours dans quelques années. Je suis épanoui. Je fais en sorte de ne pas vivre frustré. Et après, bon, j'ai la quarantaine, tu vois, donc j'ai une expérience de vie qui me permet de ne pas reproduire les erreurs que j'ai pu faire. Je me connais assez en tant qu'être humain pour savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas. Donc c'est plus facile aujourd'hui d'être épanoui à la quarantaine que quand tu as 20 ans et que tu te cherches et que t'es fougueux, t'es saï-saï, tu cours partout, essaye un peu tout. Non, aujourd'hui je suis plus mature, donc oui, je suis heureux, je suis bien et je suis content d'avoir déjà ce que j'ai. Je suis très chanceux et je le vois tous les jours, je me rends compte tous les jours par rapport à d'autres personnes, tu vois. Moi je peux sortir, m'amuser, être bien reçu partout où je suis. J'ai des accès que les gens n'ont pas et il faut s'en rendre compte et ça permet de garder les pieds sur terre.
Et sur terre, totalement, je suis totalement d'accord. Well said. Well said. Alors, on ne va pas se cacher l'importance de la musique dans ton domaine, hein, ce que tu fais. Le podcast, d'ailleurs, est très musical. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai commencé le podcast en faisant des revues musicales, puis je me suis dit, bon, tout le monde fait un peu la même chose, donc je vais élargir la chose. Mais ça reste, on reste des amoureux de musique ici. On passe au côté musique. C'est quoi les 5 titres que tu écoutes actuellement en boucle? Si on prend ton Spotify ou ton Apple Music, les 5 chansons que tu as signées actuellement.
Alors tu vois, c'est là où moi je surprends les gens. Parce que moi j'aime la musique, mais je suis pas le mec qui étudie la musique. Je suis pas le mec qui, dès qu'un album sort, va l'écouter.
Okay. Donc,
moi j'écoute que ce que je connais. Alors je connais la musique jusqu'en 2010, 2012. Après, le reste, je connais ce qu'on passe en boîte. Et aujourd'hui, comme il y a des applications comme Shazam, ça me permet de, voilà, de rester. Quand je dis un minimum, c'est vraiment un minimum à la page, mais je ne suis pas du tout. Hein. Il y a plein de chanteurs, il y a plein d'artistes que j'ai découvert récemment. Tu vois, par
Non.
exemple.
Alors, on peut faire des classiques, hein, il n'y a pas de souci, hein.
Oui, parce que non, parce que je tiens à préciser ça, parce que les gens, comme je l'événementiel est une de mes activités.
Ouais, on se dit automatiquement, effectivement.
Ouais, on se dit que lui, il est calé, etc.
Ouais.
Alors que,
Ouais.
tu vois, il y a... Tu sais, moi, il y a encore 3 ans, pour moi, Migos, c'était une seule personne, tu vois.
Mais non, Margie, tu peux pas nous faire la rof là.
Non, je suis sérieux. Il y a encore 3 ans, pour moi, Migos, c'était une seule personne. Par exemple, The Weeknd, je savais pas que c'était un chanteur, tu vois. Quand les gens parlaient de The Weeknd, moi, je pensais que les gens parlaient de leur week-end. Tu vois, non, c'est pour te dire à quel point je suis pas du tout dedans. J'écoute que ce que je connais, et moi j'écoute de la variété française. Tu vois, j'écoute des vieux sons R&B. J'écoute des choses que les gens se disent que j'écoute que de l'afrobeat
Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que
et
oui, on
trucs
va
comme
se
ça.
dire.
Alors que...
Ouais, il est très afrobeat ou très culture. En fait.
Je suis très culture noire, oui, mais la culture avec... En fait, moi, je suis... J'écoute la musique avec laquelle j'ai grandi. C'est
Ouais.
les musiques qui ravivent des émotions chez moi, parce que voilà, ça me rappelle ma jeunesse, ça me rappelle certaines époques.
Ouais.
Ah, c'est ce que j'écoute le plus. Tu vois, je peux aller à une soirée, moi, par exemple, et mettre la musique. Et les gens me disent, mais t'as quel âge? Parce que les sons que je vais mettre, c'est pas ce qu'ils écoutent actuellement. Mais alors, dans ma playlist, il y a 2 sons que j'écoute sur les dernières. Allez, ça fait 3-4 jours, ça tourne en boucle dès que j'écoute de la musique. C'est-à-dire que moi, j'écoute de la musique que dans la voiture. Tu vois, j'écoute pas de musique ailleurs. Chez moi, je suis chez moi, je suis posé, la musique ne tourne pas. Si je me prépare, je vais regarder la musique, mais je suis plutôt film, moi. Je suis plutôt film, mais donc les sons que j'écoute, l'artiste que j'écoute là en ce moment qui tourne en boucle, il y en a deux. Il y a Fally, il y a 2 sons à lui, c'est la rumba, tu vois. En tant que Congolais, moi, ça me touche directement.
Toujours
Donc
entendu.
il y a Fally. Alors c'est que des sons de, c'est que des slow, c'est que de la rumba. C'est pas du tout des sons dansants. Il y a que ça que j'écoute. Et il y a l'artiste avec lequel je collabore depuis 2 ans, John Baptiste, qui a sorti son nouvel album. Et il a 2 sons qui me détendent, qui m'apaisent, qui me mettent de bonne humeur. Tu vois,
John
c'est ça
Baptiste,
que j'écoute pour lui.
Grammy Award winner,
Ouais.
il était
5 Grammys.
5 Grammys, ouais, quand même. Je l'ai connu sur le Stephen Colbert Show. Sur le Colbert Show. C'est là que je l'ai connu, il était en live tout le temps. Et ouais, Grammy Award. Ah, tu travailles avec lui?
Ouais, depuis 2 ans maintenant.
Ouais, c'est bien. Donc, c'est ça que tu écoutes. Ok.
Là,
Éclectique.
c'est les sons qui me viennent à l'idée là tout de suite. Ouais.
Ok, d'accord. Fally et John Baptiste. Très
Voilà.
intéressant. C'est assez éclectique. C'est-à-dire que si je te demande par exemple de nommer 5 cinq albums qui t'ont marqué, y a, dit comme ça, il n'y a rien qui va
Alors,
te
si tu veux
venir.
parler en termes d'album,
Ouais, en termes d'albums. 5 albums.
le dernier album qui m'a marqué, enfin, c'est l'album, je l'écoute en entier, je l'aime, c'est Renaissance de Beyoncé. Tu vois, parce que j'aime la deep house, j'aime le côté électro sur lequel elle est arrivée là, donc il y a Renaissance. Sinon, après, pour te sortir un autre album, je sortirai Usher, je te sortirai Céline Dion, par exemple. Tu vois, c'est des albums que moi j'ai écoutés en entier. Sinon, et des albums de Koffi. Tu vois.
Encore très éclectique, encore une fois plus.
C'est pour te dire, ça, c'est des trucs. Quand je suis en voiture, je vais mettre du Céline Dion parce que j'aime ses chansons et que je vais chanter ses chansons et que je les chantais à l'école.
Ouais.
Tu vois, j'ai écouté tout l'album. Mais sinon, tu vois, moi, j'ai jamais écouté un album de Migos, j'ai jamais écouté un album de j'en sais rien, quel, y a que Jay-Z où j'ai écouté ses albums, et
Ouais.
c'est tout, quoi, tu vois. Sinon,
Alors, à
le
aucun moment
genre.
tu nommes des albums ou bien des artistes nigérians. Donc, Afrobeat, c'est juste en soirée ou tu te...
C'est,
Ouais.
non, c'est juste en soirée, en fait, j'écoute des sons, mais pas des albums.
Ok.
Pas des albums, non. Et puis moi, je suis congolais, donc on était leader dans la musique. Donc j'essaie de tout faire pour récupérer notre première place, tu vois.
Je vois, c'est assez classe, ça se comprend. Un bon
Ah
congolais, ça
oui.
se comprend.
Ah oui, donc les Nigérians, les Ghanéens, ils sont les Anglais, les Anglo-Saxons là, ils sont bons, ils sont forts. Burna Boy, il est génial, tu vois, mais j'ai jamais écouté son album. En fait, j'écoute plein de ses sons, mais je ne sais même pas si c'est dans le s'ils sont dans quel album, si c'est le même album, tu
Ouais, c'est intéressant, ça. C'est vraiment. J'aurais pas du tout parié ça, par contre. Mais
vois.
effectivement, fun fact.
Non,
Fun fact.
c'est Shazam. Moi, il y a un son qui passe, je l'aime bien, je Shazam. Je le mets dans une de mes playlists, et voilà.
Je note ça, c'est très intéressant. Alors, on approche à la fin du podcast. Je te remercie encore, Margie, pour ton temps. Comment est-ce que tu voudrais qu'on se rappelle de Margie, l'impact que tu as eu sur ce monde, dans ton domaine? Et ça, c'est la première question. C'est une question, deux questions en une. Genre, comment est-ce que tu voudrais qu'on se rappelle de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de toi? Mais surtout, comment est-ce que tu voudrais nommer cet épisode? Quel est le titre que tu voudrais qu'on donne à cet épisode?
Alors, le titre. Oh. Alors, comment est-ce que j'aimerais qu'on se rappelle de moi?
Si c'est en un mot, si c'est une phrase, si c'est un... Ouais. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
Alors,
Parce que généralement, ce que je pose comme question, c'est quel titre, qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi, quel mot ou quel adjectif, je sais pas moi, te définit. Je trouvais que c'était
Alors.
un peu compliqué comme
Alors,
question, c'était beaucoup plus large.
y a un mot, et c'est ma mère qui l'utilise souvent, et j'adore parce que c'est tellement affectueux, c'est tellement affectueux dans sa bouche, et ma femme aussi, elle l'utilise aussi parfois, et c'est comme ça que je me décris aussi, tu vois, et c'est un mot qu'on pourrait même mettre sur ma pierre tombale, tu vois.
Wow.
Ma mère va dire, elle va me dire escroc. Parce que quand je vais la voir et que je vais obtenir quelque chose d'elle, je suis obligé de la blaguer. Tu vois? Et elle est là, escroc, va, mon escroc. Et elle va accepter, mais d'abord je suis obligé de la blaguer, tu vois. Donc c'est quand les gens me demandent comment je suis, je leur dis, je suis un escroc. Je suis un bon escroc. Parce que j'aime blaguer.
D'accord, le bel escroc. Et comment est-ce que tu voudrais nommer cet épisode?
Alors là.
Bon, si là il doit avoir un néon sign, un néon là comme ça affiché en haut, qui dit sur le titre de cet épisode. Alors c'est un peu dur parce que t'es le premier invité à qui je demande ça. Donc je peux comprendre que ce soit compliqué.
Alors là, j'ai pas d'inspiration là tout de suite.
Bah c'est pas grave, t'inquiète. Je
Si
trouverai le
ça
truc.
revient, je t'enverrai un message.
Sans faute, t'inquiète.
Mais
Je suis
après,
là.
je te laisse le choix de tourner ça selon ta vision.
C'est sans faute. Margé, l'épisode s'est terminé, mais j'ai la dernière question, c'est quel invité souhaiterais-tu voir et entendre sur le podcast? Et évidemment que tu nous aiderais à avoir. Bah oui.
Alors, t'as eu Didier?
J'ai eu Didier, oui.
t'as une idée, je te dirais de contacter celui qui m'a initié dans pas mal de choses, Ama Ivy, le fondateur de Marché Noir.
Marché noir, je note ça tout de suite. Ah bah. Ok, c'est noté. Eh ben écoute, Margie, c'était vraiment un honneur. Franchement, excellente conversation. C'était vraiment super. J'espère que t'as kiffé. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. C'était vraiment très, très, très édifiant. Merci encore d'avoir répondu à présent et d'être venu sur le podcast. Je ressors enrichi. Je note beaucoup de détermination, mais surtout beaucoup de confiance en toi, franchement, dans tout ce que tu as pu entreprendre, quelque chose que j'ai beaucoup ressenti et que j'ai.
Il faut avoir confiance en soi dans la vie.
C'est ça. Bah, en même temps, ça t'a mené où ça t'a mené aujourd'hui, donc effectivement, ouais, c'est ce que je retiens.
Écoute, merci à toi et hâte de voir les résultats.
Hâte de voir le résultat et peut-être un rendez-vous ce samedi parce qu'il y a la White on White Party.
Exactement, samedi,
Qui
c'est
va se
ça.
négliger, hein? Qui va se
Ah,
négliger?
écoute, on va pas se négliger.
Merci beaucoup, Margie. C'est tout pour moi. It was your boy surprise. It was on a surprise podcast. Retrouvez-nous sur Spotify. Encore, iPodcast, partout où vous écoutez vos podcasts. C'était surprise, je vais faire l'effort d'être là encore plus récurrent. C'est pas facile, les gars, hein, mais on va continuer. Merci encore, Margie, d'avoir répondu à
Ah, bon courage à toi.
Merci beaucoup, Margie. We are out. Surprise.
À bientôt.
À bientôt.